C'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Série d'attentats meurtriers en Afghanistan. Au moins 37 personnes ont été tuées aujourd'hui. Parmi elles, au moins 10 journalistes et 11 enfants. La question iranienne a dominé les entretiens du nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Moyen-Orient. Ce soir, le Premier ministre israélien doit faire des annonces concernant l'accord sur le nucléaire iranien. En France, Pierre Laurent et Olivier Besancenot participent ce soir à un meeting unitaire en soutien aux luttes sociales à Paris. Mais Benoît Hamon ne sera pas présent, pas plus que Jean-Luc Mélenchon. À Pau, bergers, agriculteurs et élus manifestent contre la réintroduction d'ours dans les Pyrénées-Atlantiques. Deux ours femelles doivent arriver cet automne dans le département pour assurer la pérennité de l'espèce. Un double attentat a endeuillé Kaboul ce matin. Au moins 25 personnes ont été tuées dans la capitale afghane. Parmi elles, au moins 9 journalistes. 6 autres personnes ont été blessées. À ces attaques revendiquées par l'organisation État islamique, il faut ajouter un autre attentat, cette fois à Kandahar. Il visait un convoi de l'OTAN et a notamment tué 11 enfants. Enfin, un reporter afghan de la BBC a été tué par balle à Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan. Reporters sans frontières rappelle qu'en 2 ans, 34 journalistes sont déjà morts dans le pays. Et ce, malgré l'implication du gouvernement de Kaboul pour la protection des journalistes. Écoutez Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
Le gouvernement en Afghanistan, les autorités en général, sont très sensibilisées à la question de la protection des journalistes. Il y a vraiment un engagement, notamment avec la création, qui a été assez originale en Afghanistan, d'un conseil paritaire commun entre les autorités gouvernementales et les journalistes pour travailler sur la protection des journalistes. Mais malheureusement, les talibans, État islamique continue à perpétrer des attentats. Là, c'est le pire attentat commis contre des journalistes. Depuis 2016, plus de 34 journalistes ont été tués en Afghanistan dans l'exercice de leurs fonctions. Début 2016, un attentat avait été commis contre le quart d'une entreprise, Tolo News, une télévision de Kaboul, entraînant la mort de 7 collaborateurs. Depuis lors, il y a eu de manière absolument récurrente des attentats commis dans l'ensemble du pays. Il y a certaines zones du pays qui sont transformées en trous noirs de l'information. Mais un attentat de cette ampleur, c'était jamais vu depuis le début de la guerre en Afghanistan, depuis 2001. Et il est rare d'ailleurs dans l'histoire du journalisme que de tels attentats aient été commis. La plus grande tuerie, le plus grand massacre recensé ces dernières années de journalistes, c'était sur l'île de Mindanao, aux Philippines, en 2009. L'attentat contre Charlie Hebdo, avec ses 8 morts à Paris en 2015, celui contre Tolo News en Afghanistan, avec 7 collaborateurs de l'entreprise tués début 2016, et celui-là avec près de 10 journalistes tués.
Christophe Deloire de Reporters sans frontières, joint par Nadine Epstein. Riyad samedi, Tel Aviv hier, Amman aujourd'hui. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, vient de conclure une tournée de 3 jours au Moyen-Orient. Venu réaffirmer son soutien au royaume de Jordanie dans la lutte contre le terrorisme et pour le règlement du conflit syrien par la voie politique, Mike Pompeo s'est aussi exprimé sur la question israélo-palestinienne, confirmant son soutien à Jérusalem sans pour autant enterrer la solution à 2 États. Jérôme Borus.
Tout est ouvert et négociable, c'est en substance le message que Mike Pompeo a voulu transmettre à Amman au sujet du règlement du conflit israélo-palestinien. Le secrétaire d'État américain s'est montré à l'écoute des deux parties au conflit et attaché à la stabilité.
Quand le président a annoncé que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël, il a aussi dit que les États-Unis ne prenaient pas position en ce qui concerne les frontières à Jérusalem. Nous soutiendrons la solution à 2 États si les parties la souhaitent. Les frontières spécifiques de la souveraineté israélienne à Jérusalem restent sujettes à négociation entre ces mêmes parties. Les États-Unis continuent de soutenir le statu quo au Mont du Temple. Nous sommes attachés au fait de continuer de respecter le rôle spécifique de la Jordanie en tant que gardienne de ces lieux saints à Jérusalem.
Mais parallèlement, le secrétaire d'État américain a clairement pris parti sur la question de la répression israélienne à Gaza et il penche côté israélien. Depuis plusieurs semaines, des Palestiniens de la bande de Gaza manifestent pour le droit au retour sur leurs terres. Les forces israéliennes ont tué plus de 40 manifestants, elles en ont blessé plusieurs milliers. Mike Pompeo a justifié ces opérations répressives.
Nous croyons que les Israéliens ont le droit de se défendre et nous les soutenons pleinement.
Le secrétaire d'État américain appelle dans le même temps les Palestiniens à revenir à la table des négociations. mais il n'a pas mentionné l'éventuel plan de paix que l'administration américaine préparerait pour régler le conflit israélo-palestinien.
Jérôme Boruszewski à Amman. La visite de Mike Pompeo a aussi porté sur le rôle de l'Iran dans la région. Et justement, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit faire une déclaration télévisée ce soir au sujet de l'Iran à propos de l'accord international sur le nucléaire iranien. Il y a 2 mois, le président américain Donald Trump décidait de taxer les importations d'acier et d'aluminium. L'Union européenne s'est vue accorder un petit sursis, mais il arrive à expiration cette nuit. Les Européens réclament une exemption définitive. Ils ont multiplié les messages en direction des États-Unis, mais pour le moment, Grégory Phillips, le suspense reste entier.
Oui, Donald Trump n'a pas encore tranché, c'est en tout cas ce que disait tout à l'heure son secrétaire au Trésor, et le président américain doit normalement annoncer sa décision avant minuit ce soir aux États-Unis, demain matin pour vous. Plusieurs possibilités, soit il maintient de manière provisoire ses exemptions, et donc ça veut dire que sur une période donnée, les pays de l'Union européenne peuvent continuer à exporter ici leur production d'acier et d'aluminium au même tarif, également concernés l'Argentine, le Brésil, l'Australie, la Corée du Sud, le Canada et le Mexique. Deuxième possibilité, il annonce une exemption définitive ou au moins durable, c'est ce que réclament les Européens. Souvenez-vous, la semaine dernière, ici à Washington, Emmanuel Macron avait été clair, il ne peut pas y avoir de guerre commerciale entre des pays alliés. Soit enfin, troisième hypothèse, Trump décide finalement de taxer à 25% les importations européennes d'acier et 10% celles d'aluminium. Et là, évidemment, ça risque de se tendre très fort avec l'Union Européenne. Le Français Macron, la Britannique May et l'Allemande Merkel ont déjà fait savoir que si c'était cette option là qui était retenu par les États-Unis, alors l'UE réagirait avec efficacité et célérité.
Grégory Phillips en direct de Washington. Autre sujet de préoccupation pour l'Union européenne, le Brexit. Les négociations entre Londres et Bruxelles sont toujours aussi fastidieuses. Et Michel Barnier, de passage à Dundalk, ville irlandaise située tout près de la frontière avec l'Irlande du Nord, s'est montré pessimiste aujourd'hui. Pour le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, il faut se préparer au risque réel que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se terminent sans accord, Pierre Benazet.
Effectivement, pour les Britanniques et les Européens, un Brexit sans accord de sortie, c'est le pire scénario qui se puisse concevoir. Une sortie sans accord, c'est de très mauvais augure pour les futures relations euro-britanniques. On tomberait alors comme position de repli sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire sur le mode par défaut pour les échanges économiques entre des États sans relations privilégiées. À la clé, un rétablissement complet de frontières, des frontières tout aussi compliquées à franchir pour les personnes que pour les marchandises ou pour les services. C'est évidemment, pour les Brexiteurs, le scénario de l'indépendance totale du Royaume-Uni, de l'Union, mais de l'avis des économistes, c'est le scénario qui pourrait coûter le plus cher, non seulement aux deux rives de la Manche en termes d'échanges, mais aussi à la place financière de Londres, qui se trouverait coupée d'un débouché majeur. Dans le même temps, c'est aussi le pire scénario politique pour les Brexiteurs, parce que le gouvernement britannique a accepté le 23 mars des lignes directrices qui donnent pour l'Irlande une solution de repli selon laquelle serait maintenu, je cite, un espace réglementaire commun. Ce serait en soi une forme de maintien de l'Irlande du Nord dans l'union douanière et le marché unique européen. Ceci représente la solution la plus inacceptable pour les souverainistes britanniques parce que ça introduirait un coin au sein même du Royaume-Uni entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Peut-être Michel Barnier a-t-il tout simplement eu l'intention de donner un coup de pied dans la fourmilière en avertissant la possibilité de l'absence d'accord afin de pousser le gouvernement britannique à proposer enfin de nouvelles solutions pour l'Irlande du Nord. Toujours est-il que l'absence de solution spécifique pour l'Ulster ne permettrait pas d'avoir un accord pour la sortie du Royaume-Uni. Ça entraînerait le grand saut dans l'inconnu, la sortie complète de l'UE au soir du 29 mars 2019, sans même la possibilité d'une période de transition.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles, merci. Pendant ce temps, le Royaume-Uni traverse une nouvelle crise gouvernementale. Sajid Javid vient d'être nommé au poste de ministre de l'Intérieur en remplacement d'Amber Rudd, qui a dû démissionner hier soir. La ministre est tombée à la suite d'un scandale sur la mauvaise gestion du contrôle de l'immigration par son ministère. Les précisions de Marina Daras à Londres.
4 jours avant les élections locales du 3 mai, le gouvernement conservateur de Theresa May se retrouve encore une fois fragilisé. Amber Rudd est la 4e ministre en seulement 6 mois à devoir quitter le cabinet à la suite d'un scandale. Elle a été poussée à démissionner après avoir nié l'existence de quotas d'expulsion de clandestins, pilier principal de sa politique visant à instaurer un environnement hostile à l'immigration illégale et qui a vu des milliers d'immigrés arriver légalement au Royaume-Uni être menacés par la suite d'expulsions. Et si cette polémique prend de l'ampleur, elle pourrait avoir de très lourdes conséquences pour la première ministre, qui a été l'architecte de cette politique d'immigration lorsqu'elle était elle-même ministre de l'Intérieur entre 2010 et 2016. Mais sans Amber Rudd, Theresa May, qui n'avait que très peu d'alliés au sein de son gouvernement, n'en a presque plus du tout. Avec Sajid Javid, protégée de George Osborne, l'ennemi juré de la première ministre, elle maintient malgré tout l'équilibre entre pro-Brexit et pro-européen. Un enfant d'immigrés avec de fortes alliances au sein du Parti conservateur, Sajid Javid pourrait même être la nouvelle star du gouvernement. La presse britannique pense même qu'il pourra un jour prétendre au poste de Premier ministre s'il continue dans sa lancée.
À la veille du 1er mai, un meeting unitaire en soutien aux luttes sociales débute à l'instant place de la République à Paris. Ce meeting réunit des étudiants, cheminots, personnels hospitaliers ou des EHPAD autour des chefs de file du Parti communiste et du NPA, entre autres. Derrière cette initiative, il y a la volonté de rassembler les mouvements de gauche opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Mais y a-t-il réellement un élan commun, Ludovic Piétenu ?
Sur le communiqué de presse, on compte 8 organisations de gauche. Le nombre donne une impression de masse et c'est assez rare pour être signalé. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, le dit lui-même, on n'avait pas été capable de produire ces gestes, sous-entendu d'union de la gauche, dans les premiers mois du gouvernement Macron. Voilà donc une petite nouveauté dans le paysage politique, si ce n'est pas l'unité totale, ça en a au moins l'apparence. Pour la gauche, il est important de jouer cette carte-là. Si on est désuni, on est sûr qu'on pourra rien faire, expliquait ce matin au micro de France Culture Guillaume Ballas, ancien socialiste, passé au mouvement Génération. C'est lui qui représente en ce moment Place de la République, Benoît Hamon. Le premier geste d'union avait eu lieu le 22 mars sur un quai de la gare de Lyon. Il s'agissait simplement d'une photo, c'est au nom du NPA, Olivier Besancenot qui avait tendu la main aux autres formations. Hamon avait été le premier à répondre, suivi de Pierre Laurent et de l'écologiste Noël Mamère. Ses leaders suivent aussi l'opinion, c'est une France qui descend dans la rue, pas toutes les Frances. Les partis de gauche se mettent au diapason de ceux qui veulent défendre une certaine idée du service public face à un gouvernement qu'il qualifie de thatchérien et d'enfermé dans une spirale libérale. Pendant ce temps-là, le Parti socialiste regarde.
Pour la Journée internationale du travail, demain, les syndicats défileront en ordre dispersé. La CGT avait appelé à une union syndicale, mais sa proposition a été rejetée par les autres organisations. À Air France, deux nouveaux jours de grève sont prévus cette semaine, jeudi et vendredi. Alors qu'une consultation interne organisée par la direction est en cours, 11 syndicats restent mobilisés pour obtenir des hausses de salaire. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Des négociations ont repris cet après-midi entre la direction et les syndicats de pilotes.
Oui, une reprise des négociations sur des revendications qui sont en effet propres aux pilotes et en vertu de discussions débutées il y a plusieurs semaines. Leur demande concerne toujours une augmentation spécifique de 4,7%, des augmentations de grilles, des forfaits d'étape ou encore des mesures concernant la révolution numérique. Et l'objectif de ces négociations, selon la direction, c'est d'arriver à une sorte de pacte qui permettrait, en contrepartie de hausse de salaire pour certaines catégories de pilotes, d'arriver à plus de flexibilité, mais aussi à l'augmentation des capacités de vol de Transavia. Transavia, c'est la filiale low cost d'Air France. Et pour cause, un accord signé sur le sujet avec les pilotes stipule que Transavia ne peut pas faire voler plus de 40 appareils. Aujourd'hui, la direction voudrait pouvoir augmenter cette capacité. Mais pour cela, il faut que les pilotes acceptent de revenir sur cet accord. Des pilotes dont la direction a également besoin comme instructeurs pour la nouvelle flotte de Boeing 787 qui commence à être livrée. Dans cette négociation spécifique direction pilote, on le voit, ce sont les pilotes qui tiennent les leviers principaux. Quant au reste des revendications, pour le reste des personnels, leur issue reste suspendue alors qu'il est d'une part à l'ampleur de la prochaine mobilisation, donc en fin de semaine. D'autre part, à cette consultation en interne organisée par la direction, une consultation dont les syndicats font savoir qu'ils ne prendront pas en compte ces résultats, quels qu'ils soient. Enfin, cette situation à Air France a fait réagir ce matin Laurent Berger à la CFDT. Il estime que les syndicats de pilotes prennent en otage le reste des personnels, position que n'approuve pas, en revanche, le tout nouveau patron de FO, Pascal Pavageau.
Anne-Laure Chouin, des statistiques de délinquance a priori inquiétantes à Paris, les chiffres de la préfecture de police révèle une hausse très importante du nombre de plaintes pour violences sexuelles, plus 29% en un an. Mais pour Aurélien Langlade de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, il faut relativiser ces chiffres. Cette hausse ne signifie pas forcément que les agressions ont augmenté.
C'est pas une augmentation des violences sexuelles en elles-mêmes. Il y a plus de personnes qui vont déposer plainte, mais pas forcément une augmentation du nombre en lui-même. Ça veut dire que les victimes vont plus dénoncer et déposer plainte. C'est en ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut pas savoir si ça vient de ce phénomène Balance ton porc ou MeToo. On peut pas savoir si ça vient de ça, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça a eu un impact, mais pour l'instant, on peut pas le mesurer. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir si c'est ce phénomène-là qui est à l'origine de la hausse. Mais on peut imaginer et faire cette hypothèse qui est très crédible. Il y a eu aussi une prise de conscience politique et il y a eu des campagnes d'incitation au dépôt de plainte. C'est en début mars qu'il y a eu une campagne pour dénoncer le harcèlement sexuel dans les transports en commun en Île-de-France. Et c'est ça aussi qui peut faire augmenter le nombre de dépôts de plainte, le nombre de faits enregistrés. L'idée est de cibler au maximum les victimes de violences sexuelles pour les inciter, à travers des campagnes d'incitation au dépôt de plainte, à dénoncer l'agresseur et l'agression qu'elles ont subie. Grâce à l'enquête de victimation, on arrive à estimer le nombre de personnes qui se déclarent victimes de violences sexuelles. Et grâce à cette enquête de victimation, on sait aussi si ces personnes ont déposé plainte ou pas. Et du coup, je peux vous dire que 90% des personnes qui se déclarent victimes de violences sexuelles ne déposent pas plainte. Et c'est pour ça que quand moi je lis « hausse d'enregistrement des violences sexuelles », je suis plutôt content parce que ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement une augmentation du dépôt de plainte. Et un nombre de victimes, du coup, qui vont se déplacer pour aller dénoncer le fait d'avoir été victime.
Aurélien Langlade de l'Observatoire de la délinquance répondait à Antoine Marette. Ils sont partis de Vintimille à la frontière franco-italienne et comptent rejoindre Londres au mois de juillet. Une soixantaine de personnes ont entamé ce matin une longue marche pour témoigner de leur solidarité envers les migrants. Ces marcheurs doivent passer par 59 villes, rencontrer lors de ces étapes les associations locales et organiser des actions pour sensibiliser l'opinion sur la question des migrants. Ce matin, des militants associatifs, des personnalités comme José Bové ou Monseigneur Gaillot et des migrants se sont rassemblés à Vintimille pour l'occasion. Vous avez suivi le départ du cortège, Damien Triomphe.
C'est parti, oui, pour cette marche de solidarité de 2 mois et 1 semaine. La soixantaine de participants, surtout des militants des associations de soutien aux migrants, s'est mise en route ce matin.
Andiamo, andiamo, in marcia.
Allez,
à Roma, si dice, allez.
Allez, dai, dai.
Accompagné donc pour cette première étape par des sympathisants, notamment des membres de collectifs locaux italiens. Bon, première étape en fait en car, parce qu'il faut passer la frontière et aller dans la montagne, à Breil-sur-Roya, Emilien de l'association L'Auberge des Migrants.
20 000 Breil, parce que c'est pour nous le Calais italien, c'est un symbole, hein. Blocage de frontières. C'est assez différent quand même de Calais parce qu'on n'est pas à la frontière de l'espace Schengen, mais c'est symbolique. Il y a des contrôles, des blocages aux frontières, des exemples d'élite de solidarité. C'était symbolique.
La vallée de la Roya qui apparaît donc comme un passage obligé, les migrants l'empruntent pour rejoindre la France et le cortège est accueilli là-bas par Cédric Héroux, l'agriculteur militant condamné l'an passé pour aide à l'immigration clandestine. Lui n'a pas pu partir de Vintimille.
Non, je suis interdit de sortir du territoire français. Et par contre, faire l'accueil de cette marche-là avec un concert de Cali, donc le 1er mai au soir sous le chapiteau de Breil-sur-Roya.
Ça fait partie des objectifs de la marche, la dénonciation du délit de solidarité. Un concert, un débat, premier rendez-vous pour cette première étape sur les 58 à venir.
Bien sûr que c'est symbolique. En fait, c'est une démarche de personnes en fait qui ont envie de relever le défi de la problématique de la migration. Et on va mettre un peu en lumière toutes les actions d'associations, de personnes militantes ou de citoyens lambda qui sont là à relever ce défi-là. Si on laisse que l'extrême droite européenne mettre en lumière ses actions, on ne pense pas qu'on va s'en sortir. Le but, c'est de recréer un débat sur qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes migrantes, qu'est-ce qu'on fait avec les demandeurs d'asile et qu'est-ce qu'on fait avec la crise migratoire actuelle.
Cédric Héroux et son collectif qui accueillent donc à Breil-sur-Roya le cortège jusqu'à mercredi. L'étape suivante, ce sera Nice le 3 mai.
Damien Triomphe à Vintimille avec Arthur Gerbault à la technique. Ils s'opposent à l'arrivée de dangereux prédateurs dans leur département. Quelques 1200 manifestants se sont rassemblés à Pau pour protester contre la réintroduction de 2 ours bruns prévus à l'automne. L'annonce avait été faite par Nicolas Hulot il y a 1 mois. L'objectif étant d'assurer la survie de l'espèce dans les Pyrénées. Mais des éleveurs de montagne sont venus de toute la chaîne pyrénéenne avec leurs bêtes pour dénoncer cette décision. Le reportage de Daniel Corsan.
C'est sans doute l'image forte de cette manif des brebis, des vaches et des chèvres qui ouvre le cortège sur le boulevard des Pyrénées, la promenade emblématique de la ville. Ce sont les brebis d'Emmanuel, il est éleveur à Borse, en vallée d'Aspe.
Moi je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de berger. Mes parents, mes grands-parents ont trop souffert de l'ours. Mon père me racontait, c'était passé 1 mois sans pouvoir se déshabiller parce que quand l'ours est là, Il n'y a pas le temps de mettre ni les pantalons ni les chaussures, il faut se lever et aller le sortir du troupeau.
On l'a entendu, berger, c'est une affaire de famille, de génération. Emmanuel est aidé de 3 enfants du village pour conduire les bêtes, Yann, Anaïs et Alice, 10, 12 et 15 ans.
On est là pour pas que les ours viennent en montagne.
Pour pas qu'elles se fassent manger les brebis. Et après, il n'y a plus de brebis pour faire du fromage.
Tu veux faire berger plus tard ?
Non.
Oui. Parce que mes parents, ils sont agriculteurs, bergers, donc du coup, je veux reprendre leur ferme.
Le reste, c'est une histoire de grandes personnes. Une délégation a été reçue en préfecture. Le préfet leur a dit qu'il ferait remonter leurs inquiétudes au ministre. En sortant, la délégation a rendu compte.
On lui a bien expliqué que son pognon ours, il se le garde. Ça ne fait que commencer.
Et à la prochaine manif, il y aura sans doute moins d'enfants.
Daniel Corson de France Bleu Béarn. Demain, mardi 1er mai, le temps sera variable au nord, entre passages nuageux et belles éclaircies. Dans le sud, des averses. Les températures minimales resteront fraîches, de 1 à 14 du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 13 et 20 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.